les héritiers au secours des déshérités, mais leur valeur et leur armure, que vos railleries n'effleurent même pas, sous les quolibets de la populace pleine d'AMG, ils donnent l'obol au sans le sou. Les pieds dans la glaise, ils sortent le gueux du ruisseau, et si Dieu leur prête vie, ils guériront bientôt les écrouelles. Voilà des gens dignes de passer à la radio, Daniel Mermet, pas comme ces prolétaires jamais contents qui sont votre ordinaire. Serviteur, c'était Christine du Limousin.
Je propose en ce jour du 6 juin de rendre hommage à ce petit instrument que l'on employait du temps de la résistance des maquisards au fond des bois.
Monsieur Estrosi, ce qui favorise la délinquance, ce n'est pas le projet de loi de Madame Taubira. Ce qui favorise la délinquance, c'est Pygmalion, c'est Karachi, Tibéri, Dassault, Balkany. Ce qui favorise la délinquance, c'est la société que vous et vos amis de l'UNP nous proposent à base de clientélisme et de corruption. C'est ça, monsieur Estrosi, et pas le reste. C'était Benoît de Buzy.
Lettre ouverte à ceux qui sont passés du Colmao au Rotary. Cher ex-contestataire, le retour de la droite ne vous rendra pas votre jeunesse. Mais c'est bien la gauche au pouvoir qui vous l'a fait perdre, définitivement. Ce fut sous Mitterrand que vous vous êtes normalisé, et sous Fabius que vous avez viré votre cutie. Pour devenir les néo-bourgeois des années 1980, les mao-gauchos-contestos, crachant sur leur passé, ont profité de l'hypocrisie nationale que fut le pouvoir socialiste. Sous lui, ils s'installèrent dans tous les fromages. Plus que personne, ils sanguinent frères. Deux reniements ainsi se sont alliés. Celui des ex de mai 68 devenus conseiller ministériel, patron de choc ou nouveau guerrier en chambre, et celui du socialisme passé, plus à droite que la droite. Votre apostasie servit d'aiguillon à celle de la gauche officielle. C'est l'émission d'hier qui m'a fait repenser à la lettre ouverte à ceux qui sont passés du Colmao au Rotary, de Guy Hockenheim. Voilà, ben bonjour à tous, et c'était Henri de Bordeaux.
Mais c'est qu'il y a une source d'emploi, là. Tous ces braves gens qui mettent les pieds dans la glaise, on va pouvoir leur offrir des cireurs de pompe. Allez, c'était Fabienne, qui vous souhaite plein de bonnes choses et plein d'autres relations.
Merci Fabienne, merci à tous. Oui, bien sûr, la lettre ouverte à ceux qui sont passés du Colmao au Rotary. Rotary, oui. Et bien, bien sûr, c'est à lire et relire. Il y a une nouvelle édition de ce bouquin chez Agone qui ressort ces jours-ci. Et sauter dessus, il faut absolument lire ce bouquin qui est très stimulant, disons, très stimulant. Alors, aujourd'hui, où allons-nous ? D'abord, on va commencer par aller voir des gens qui prétendent « nous ne sommes pas des nantis ». Mais avant d'aller les voir, il n'y a quand même pas que des mauvaises nouvelles. Saviez-vous, chers AMG, que les grandes entreprises mondiales ont versé quelque 228 milliards de dollars de dividendes au cours du seul premier trimestre, soit une hausse de 31% en un an. C'est quand même pas mal, hein ? On devrait tous être actionnaires au lieu de traîner, là, comme le font ces gens à Paris, sur le Champ de Mars. C'était hier, ce 3 juin 2014, et c'est eux qui disaient « nous ne sommes pas des nantis », vous avez compris, ou peut-être vous ne le saviez pas. C'était une très grande manif de retraités. Voilà que les retraités ne sont pas contents des conditions qui leur sont faites, ils ne sont pas du tout contents de cette austérité. On se demande bien pourquoi.
Pouvoir d'achat, santé, protection sociale, revaloriser les retraites, revaloriser les pensions de reversion à 75%, une urgence pour vivre. Et si on empêchait les riches de mourir plus tard que les pauvres ? Ce n'est pas aux retraités de payer la crise des spéculateurs.
Bonjour monsieur, vous travaillez encore ou pas? Parce que je vois que vous
non, on est retraités, pensionnés plus exactement. Je crois qu'il va falloir qu'ils nous entendent, que l'austérité ça suffit, hein, que nous on veut de quoi vivre correctement de notre retraite. Et que l'argent existe, qu'il faut le chercher là où est-ce qu'il est.
Retraité, c'est pas un gros mot.
J'ai vu qu'il y a 17% des retraités qui vivent avec moins de 600 euros par mois.
Oui, tout à fait, oui. Ouais. Il faut savoir aussi que la toute dernière, c'est les retraités qui avaient eu des enfants. qui se voient aujourd'hui apposer du complément familial, et ce qui fait que certains retraités qui n'étaient pas apposés vont le devenir. Et associé à ça, bien sûr, il y a tout ce qui va avec. Il y a tous ces avantages accordés aux retraités qui vont disparaître.
Ouais, on est les cheminots de la région Nord-Pas-de-Calais. Et on est monté à Paris justement pour défendre le pouvoir d'achat. Et bien dire à M. Hollande qu'il pense un petit peu à nous, pas qu'aux patrons, hein, parce que 50 milliards pour les patrons, puis pour les retraités, c'est gelé pendant 2 ans les retraites.
Alors vous, votre retraite, elle est de combien, si on fait un petit tour là?
À nous, la moyenne, si vous voulez, la retraite, en comptant les annuités maximum et le grade où on a fini les cheminots, moi, je tourne autour de 1500.
Pour la situation,
ouais.
Bah, que les retraités sont vraiment dans la merde. On a perdu la demi-part des veuves. Il y a des femmes, les veuves de mineurs par exemple, elles n'ont jamais payé d'impôts depuis un an, elles payent carrément des impôts. Donc c'est en cascade sur tout le reste, elles ne peuvent plus vivre.
Accroche à ton cœur un morceau de chiffon rouge, une fleur couleur de sang. Si tu veux vraiment que ça change et que ça bouge, lève-toi car il est temps.
On doit avancer. Merci. Merci.
Voilà, ils étaient 20 000 hier, et quelques-uns ont parlé avec Anaëlle Verzo. Il se pourrait bien que ça se relève de ce côté-là, hein, des jeunes retraités dynamiques et pas contents qui se mobilisent. Alors, aujourd'hui, on va passer une heure à nouveau avec des gens qui ont effectivement des chances de vivre plus longtemps que les pauvres. Aujourd'hui, le golf. Là-bas, si j'y suis, hein, c'est pas toujours à traîner avec des pauvres, des retraités. Ah non, aujourd'hui, c'est le golf. Maintenir sa position par une stratégie de distinction. Voilà ce que dit un sociologue qui observe des joueurs de golf. J'ai les relations mondaines, j'ai les relations, voilà ce que chante Charles Trenet. Le commerce des indulgences est interdit par Dieu. Je développerai ce thème-là. Voilà ce que dit l'Église, et surtout Luther, qui luttait contre les indulgences. Et qui sert le mieux profite le plus. Beaucoup d'entre vous ont pensé que c'était une plaisanterie. Non. Qui sert le mieux profite le plus. C'est la devise du Rotary. Hier, on a découvert, pour certains d'entre vous au moins, le Rotary à Bordeaux, avec Charlotte Perry, qui a été accueillie, vous avez vu, c'est Charlotte Perry, mais c'est une vraie mondaine. Et aujourd'hui, on va la retrouver, alors là, c'est encore mieux qu'hier, c'est au golf. Un golf à Bordeaux, très rare d'accès, c'est très limité, c'est vraiment des privilégiés seulement qui peuvent aller là. Mais là, c'était ouvert ce jour-là, vous allez comprendre pourquoi. En tous les cas, on s'est immiscé et on vous emmène tous les auditeurs de là-bas, si j'y suis, dans cette heure haut de gamme, distinction, discrétion, privilège, qualité, une heure réservée à nos membres, bien sûr, oreilles correctes, exigées. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour, c'est pour vous annoncer un repère ce vendredi 6 juin à 20h30 au Cotopo, Lyon 1er, 14 rue René Lénaud. La thématique, la lutte des Indiens de Colombie pour préserver leurs terres, avec une projection d'un film d'Éric Julien, suivi d'un débat de Nicolas Dubois. À très bientôt, au revoir.
J'aurais bien aimé m'appeler Agamemnon, car je l'aime bien, ce nom, Agamemnon.
Bonjour, AMG de Strasbourg et alentour. Nous avons rendez-vous le samedi 7 juin à 15h au bar La Perestroïka de rue Tiergarten. C'est tout près de la gare. Nous parlerons notamment de nos perspectives quant au présidentiel 2017. À samedi.
Salut Daniel, et salut les AMG, en particulier les Mosellans. On se retrouve aujourd'hui, mercredi 4 juin, pour le Café Repère de Metz au bar associatif La Chaoué, en rue du Champé, à partir de 19h, pour se poser la question de savoir si ça vous dirait une Saint-Valentin à Carlsbad. Donc, je vous dis à tout à l'heure.
Bonjour à tous les auditeurs de là-bas si j'y suis. Ce soir, à Tréguier, dans les Côtes d'Armor, dernier café repère de la saison. À partir de 19h, à l'Aigle Noir. Nous parlerons de l'actualité, notamment des dernières élections européennes, avec comme point de départ pour la discussion mon village d'un peu plus de 1000 habitants où le FN est arrivé en tête des suffrages. À ce soir, 19h, à l'Aigle Noir, 17 rue Petit à Tréguier, Côte d'Armor. Kenavo.
Vous avez bien joué là-haut. C'était un coup. Ratez.
Il y a comme d'habitude beaucoup de prix pour cette compétition du Rotary Golf Club.
On est fasciné par cette petite balle-là. Là, on y escate les neurones, là, cette petite balle-là.
Ah non, elle va trop à gauche.
C'est un endroit remarqué, silencieux, bien peigné, avec de beaux arbres fleuris. Si on arrive en t-shirt, ça va faire mauvais effet quand même. Bermuda est autorisé, mais pas les shorts. Eh oui, nuance.
Ah, alors ça c'est l'affiche du Rotary Golf Cup qui est posée sur l'accueil du Golf Bordelais.
Avec votre swing pour leur handicap. Et donc on a fait un petit rapprochement entre le handicap du golfeur et le handicap, malheureusement, qu'on essaie d'aider en organisant cette compétition.
Donc là, c'est le Fagnon OGV, c'est ça?
Oui.
Logement pour la vie.
Logement social.
C'est du logement social?
Oui.
Les idées du Rotary nous semblent pour servir et aider. Notre devise est servir d'abord.
On a un seul objectif, c'est d'aider les autres.
Salut, c'est Daniel Mermès et là-bas, si j'y suis avec Charlotte Perry, Rotary, qui sert le mieux, profite le plus.
Flight number 2, arriving from New York.
Appel en cours.
Bonjour.
Vous voulez rentrer?
Oui.
Vous êtes du club?
Non, je suis journaliste. Il faut un badge pour rentrer, en fait.
Ouais, pas un badge, non, une clé magnétique. Ben oui, c'est privé. Vous avez sonné?
Oui, je viens de sonner, ouais. Ça n'a pas l'air de répondre. Alors là, je viens d'arriver au Golf Bordelais. Une grande barrière verte à l'entrée. Moi, je me suis glissée juste derrière la voiture d'un membre du club qui est entré. Et je me trouve donc dans le quartier de Codéran, un quartier chic de Bordeaux-Ouest, où se trouve le golf bordelais. Ici, pas de jeans, pas de casquette, pas de short. Le golf bordelais est un golf très fermé et c'est très difficile d'y entrer. Sauf à quelques rares occasions, comme ce week-end par exemple, où se déroule la Rotary Golf Cup, le tournoi de golf annuel du Rotary. Et cet après-midi, on a rendez-vous avec Henri Fayade, le président du club Rotary de Bordeaux-Ouest, qui est venu, avec quelques Rotariens assidus, planter les fanions des entreprises partenaires de la Rotary Golf Cup.
Et donc ces gagnants auront la gentillesse de se placer devant le panneau Rotary Golf.
Une pièce de 5 millions et un double 29 pour Patrick Bardou et Firabin.
Privilège, privilège, exigence, excellence, haut de gamme, haut du pavé. Voilà où nous sommes à nouveau aujourd'hui avec ces membres du Rotary sur ce, dans cette association de golfeurs indulgence. Oui, voilà des gens qui vivent bien, qui vivent même très très bien, qui ont de beaux revenus, de belles vies, souvent de belles maisons, une belle situation, etc. et qui peuvent peut-être susciter, qui pourraient susciter quelques envies, quelques jalousies. Alors ils veulent obtenir des indulgences, qu'on soit indulgent vis-à-vis d'eux, qu'on soit pas trop agressif, qu'on soit gentil, qu'on soit, voilà, qu'on les accepte, oui. Et pour ça, il y a une très bonne technique, très très vieille technique, c'est se montrer vertueux. Comment voulez-vous en vouloir à quelqu'un qui réunit des amis, qui réunit des fonds pour aider les pauvres enfants orphelins du bout du monde ? Non, on est indulgent à ce moment-là, on est indulgent avec cela. Eh bien, c'est les indulgences. Autrefois, il y avait un commerce des indulgences. Et oui, les plus riches achetaient des indulgences et donner à l'Église de l'argent pour acheter des indulgences, ce qui leur permettait d'accéder plus vite au paradis. Oui, tout simplement, on disait même, dès qu'on entend l'argent tinter, les portes du purgatoire s'ouvrent. Parce que vous savez, autant que vous êtes chers AMG, il y a une partie d'entre vous qui ira directement en enfer, mais enfin, certains, voilà, se retrouveront au purgatoire. Et ça peut durer longtemps, le purgatoire. Alors comment sortir du purgatoire avec du fric ? Vous donnez de l'argent, dès qu'on entend le son de l'argent, les portes du purgatoire s'ouvrent. C'est ce qu'on disait dans l'Église catholique, ça n'a pas du tout plu à Luther, qui s'est opposé à ça et qui a dit non. C'est pas comme ça la vie, c'est pas comme ça la solidarité, c'est pas comme ça l'humanité. Ça a donné lieu à de grandes querelles religieuses. Et oui, très important. Vieille histoire, acheter des indulgences avec de l'argent, se faire bien voir aux yeux de Dieu, aux yeux des hommes, en donnant. Voilà, c'est ça le système de la charité. Très très loin de la justice et de la réelle redistribution. C'est une vieille histoire, ce que je vous raconte là, et on la connaît par cœur. On dit, oh, écoutez, on dirait vraiment un sujet de dissertation de sixième. Oui, mais sauf que ça creuse les inégalités, se creuse de plus en plus, et il se pourrait bien qu'un jour, les pauvres en aient marre. Alors il faut leur donner quelque chose pour qu'ils soient indulgents, au moins jusqu'à 16h, ou presque, dans là-bas, si j'y suis, sur France Inter, Rotary, qui sert le mieux, profite le plus.
Saloperie. Le pauvre.
When I see a need,
quand je vois un besoin,
I like to lend a hand.
Je veux tendre la main.
We all need someone.
Nous avons tous besoin de quelqu'un
to understand.
Qui comprenne.
That there are people in this world.
Qu'aujourd'hui il y a des gens dans le monde
who really need us now.
Qui ont besoin de nous.
It's up to each of us.
Il ne tient qu'à nous
to figure out how.
De savoir comment aider.
We are calling out around the world.
Nous déclarons au monde, rejoignez-nous.
There is work for you and me.
Il y a du travail pour toi et pour
we
moi.
Are building communities.
Nous renforçons les communautés
bridging continents
et rapprochons les continents
all around,
partout.
All around
partout.
The world.
Et nous déclarons au monde, rejoignez-nous. Rotary International, servir d'abord.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Ça va bien, vous ?
Très bien, merci.
Bonjour, Yves, Michel.
Bonjour monsieur.
Rotary de Bordeaux.
Deux autres copains qui vont nous rejoindre.
D'accord.
Le président de la commission de golf.
Le golf bordelais, c'est un des plus vieux golfs de Bordeaux. Comme c'est un club privé, l'accès est fermé. Et les gens sont attirés pour venir jouer en disant « on vient jouer ici quand on n'a pas l'occasion de venir ». Et après, on a la possibilité en même temps de faire une action humanitaire parce qu'on joue, on sait que ce qu'on va jouer, c'est pour aussi aider une association. Surtout aussi, c'est une bonne opération pour nos sponsors. On a 18 trous, 18 sponsors. Hein. On a trouvé des sponsors pour sponsoriser chaque trou.
Donc là, c'est ce qu'on va faire cet après-midi. On va aller...
Cet après-midi, on va installer sur le parcours les drapeaux des sponsors. Peut-être ça donnera les idées ou l'envie à quelqu'un qui vient jouer, disant s'il est, travaille dans une société ou il est patron d'une société, entrepreneur, il dit bah, « tiens, l'année prochaine, je veux sponsoriser aussi un trou, ça permet aussi d'aider ». Le sponsor d'un trou, ce n'est pas très élevé le prix, c'est 300 euros.
300 euros pour voilà. Avoir le nom de l'entreprise.
L'entreprise, voilà. Et il y aura sur chaque trou, on va avoir le nom d'entreprise. Après, il va y avoir un grand panneau qui fait 2 mètres par 3 mètres. Tous les sponsors, comme dans les matchs de foot ou de rugby, lors de la remise des prix, les joueurs, quand on va remettre les prix, ils passeront devant, on en prendra les photos aussi. Voilà, c'est quelque part aussi, c'est un coût médiatique pour celui qui sponsorise. Et de l'autre côté, il fait ici une œuvre humanitaire. Moi, c'est Henri Fayade. Je suis membre du club depuis 1999. Je suis le président de cette année. Je suis rotarien avant tout. Tout est fait dans la joie et la bonne humeur pour un seul objectif, c'est collecter de l'argent avec du bonheur et pouvoir aider une association qu'on a choisie cette année. On a choisi l'association
Parents Cancer. Et ça permet aux parents de pouvoir être tout près de l'hôpital, loger pendant un week-end, venir en aide à leurs enfants. Des gens qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent pour s'offrir une chambre d'hôtel, des repas au restaurant et tout ça.
Il y a 2 ans, on a fait décorer l'hôpital des enfants. Le couloir pour rentrer dans la salle d'opération, les enfants allongés sur un lit, on a décoré pour qu'ils puissent passer dans une ambiance avant de rentrer à la préparation. On a aidé...
L'année dernière, c'était le jardin thérapeutique, un institut de fin de vie, des gens qui sont là pour mourir d'un cancer notamment. Donc cet établissement, il manquait un extérieur. On va financer partiellement un jardin thérapeutique.
Pas trop longtemps pour chercher vos balles. Dommage, j'avais la distance du fait.
Le vainqueur.
Saloperie.
Moi, je peux vous demander de vous présenter.
Yves Chalufour, je suis le vice-président du Rotary. Ça fait 25 ans que je suis rotarien. J'ai été au Rotary de Libourne-Saint-Émilion, Albi, Toulouse et maintenant Bordeaux-Ouest. Et c'est pour ça que je suis bénévole aussi à la banque alimentaire. C'est une des principales activités de notre club, c'est d'aider la banque alimentaire. On fait de la récupération de denrées alimentaires lors de la collecte nationale. On prend un hypermarché pour nous et avec 40 ou 50 bénévoles, eh bien on fait pendant 2 jours, on récupère toutes les denrées alimentaires que les clients veulent bien nous donner. Et puis on les aide à faire du tri des marchandises. Et puis on va déjeuner tous les ans, aussi chez eux, à la banque alimentaire. Ça leur donne des fonds pour pouvoir fonctionner. La banque alimentaire...
Alors vous déjeunez avec les gens, les bénéficiaires
voilà,
de la banque alimentaire.
Tout à fait. Donc on déjeune, on apporte notre vol financière. Et ça nous permet de bien être considérés. On a
De bien être considérés par qui ?
Ben par la communauté, si on veut, par la communauté. Ceux qui sont dans précarité alimentaire, ils sont contents de nous voir arriver parce qu'on les aide un petit peu. C'est 35 000 personnes en Gironde, des gens qui sont en difficulté alimentaire. Donc c'est des gens qui ont besoin de nous. Nous, on a la chance d'être a priori pas trop mal, on est en bonne santé, on a des possibilités financières qui sont conséquentes. Bon, ça ne veut pas dire qu'on est meilleur que les autres, mais de notre situation, eh bien, on en fait profiter à d'autres. Moi, j'étais directeur de banque pendant 40 ans chez BNP Paribas. Par exemple, pour une opération de la banque alimentaire, j'ai été personnellement sollicité la direction régionale de BNP Paribas. Je n'ai pas la réponse encore, mais j'espère qu'ils vont pouvoir me donner quelque chose. Voilà.
Ah oui, donc vos relations professionnelles vous permettent de...
Ben, quand j'arrive chez eux, je dis, vous savez, je suis un ancien de la maison quand même. Donc la porte s'ouvre assez facilement quand même. Ça fait partie un peu de nos relations aussi. Il faut connaître les gens, il faut savoir les solliciter gentiment.
Mais ça a de l'avenir, la banque alimentaire, puisque la pauvreté n'a jamais été aussi grande en France.
Ah, je ne suis pas prêt d'être au chômage, oui, ça c'est sûr, de ce côté-là, oui. Mais c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez. Alors on ne se pose pas de questions, il y a des gens qui en ont besoin, et ben, on fait ce qu'il faut pour essayer de les nourrir, voilà. Maintenant, trouver les solutions pour dire, on va lui donner du travail, il va avoir un logement et tout ça, aujourd'hui, ce n'est pas facile.
On se dit, par exemple, il y a des gens qui gagnent tellement d'argent et d'autres qui en gagnent tellement peu, que les écarts comme ça de salaire sont tellement énormes.
C'est vrai, ça existe, ça. Mais on va vous dire que, d'un autre côté, dans le système actuel mondial, si vous ne donnez pas autant d'argent à un chef d'entreprise, il va s'en aller ailleurs. C'est toujours pareil, ça. Moi, je ne suis pas malheureux, je paye mes impôts, j'en paye sûrement beaucoup plus que d'autres. Et ben, tant pis, c'est comme ça, tant mieux pour moi.
Ça veut dire que vous en avez gagné beaucoup?
J'en ai gagné pas mal. Mais j'ai bossé aussi, hein, donc je n'ai pas volé. Je ne dis pas que j'ai travaillé plus que d'autres, mais bon, j'ai travaillé mon sou. Hein.
Voilà, il a fait le job, ce monsieur qui est là sur ce magnifique golf aéré, vert, arboré. Et alors, vous avez vu le dress code? Dress code. Ah, je suis sûr qu'il y a la moitié d'entre vous qui savent pas ce que ça veut dire, dress code. Aïe, on a du boulot, hein. On a du boulot pour vous essayer de vous mettre un peu au niveau pour que vous arriviez un jour ou l'autre à rentrer faire partie d'un club comme ça, de golf. Ce bruit-là, la plupart d'entre vous savent même pas à quoi ça correspond. C'est assez désolant, hein, quand même. Vous êtes une partie d'entre vous, vous êtes vraiment pas dans le coup du tout. Vous avez rien compris du tout. Vous n'avez pas compris que ces gens-là sont là pour faire le bien, servir avant tout. C'est leur préoccupation principale. Bien sûr, ils ont bien réussi. Bien sûr, ils sont humanistes. Si vous voulez, c'est des entrepreneurs qui ont des entreprises tout à fait conséquentes, qui, hélas, sont écrasés par les charges et les impôts dans ce pays trop étatisé, qui ne permet pas à la libre entreprise de faire tout ce qu'elle pourrait faire, accomplir, pour créer des emplois. C'est bien la cause de l'État s'il n'y a pas plus d'emplois que ça en France et si le chômage se développe. S'il n'y avait que les entreprises, il n'y aurait plus du tout de chômage. Hein. Et puis alors, on pourrait jouer, on aurait plus de temps pour jouer au golf et peut-être vous apprendre un peu à vous, là, qu'est-ce que c'est, comment il faut venir habiller, comment il faut être, voilà. On a vraiment du boulot.
Donc là, on se trouve, c'est quoi devant le...
Alors ça, c'est le secrétariat. Puis là-bas, il y a le bar-restaurant.
Le clubhouse, c'est ça?
Le clubhouse, voilà, c'est ça. On va y aller, si vous voulez.
Allons-y. Ah oui, alors là, ils vendent des polos. Parce que j'ai vu qu'on ne pouvait pas faire du golf en t-shirt, ni en jean.
Non. Faut être... Oh, c'est un endroit remarqué, silencieux, bien peigné, avec de beaux arbres fleuris. Si on arrive en t-shirt, ça va faire mauvais effet quand même. Bermuda est autorisé, mais pas le short. Eh oui, nuance. Voilà, non, mais ça fait partie un petit peu de la bonne éducation aussi, voilà, bon...
De l'étiquette, quoi.
Voilà. Faut bien que ça existe un peu, l'étiquette que vous dites. Oui. Là, vous avez le restaurant, ici. Donc les gens prennent un pot, déjeunent, dînent. Puis là, c'est un practice où les gens s'entraînent à taper des balles.
Tout au bout, voilà. Là-bas.
Là-bas, oui, le monsieur en jaune, là, vous voyez. Et le départ est là-bas, le 1, le 1, le 2, le 3. Enfin, après, il y a 18 trous à faire. C'est beau, hein?
Ah, c'est magnifique devant nous. Donc
alors, devant, c'est un terrain d'entraînement pour le putting, c'est-à-dire le dernier coup, c'est-à-dire le coup où on va rentrer la balle dans le trou.
Ah.
Ce golfeur, il s'entraîne à faire ce qu'on appelle une approche. C'est-à-dire, il est à l'extérieur du green, ce qu'on appelle le green, où il y a les trous. Ouais. Et de l'extérieur, il va essayer de s'approcher le plus possible du drapeau, vous voyez. Regardez.
Ah, pas mal, hein.
Et ça, ce sont des coups qui sont très durs, ça. Là, ah, c'est oui. Un très beau coup, ça.
Il vous sourit, ce que il lui signifie que c'était un beau coup.
Ah, oui. Voilà, parce qu'après, bon, ben, il peut mettre la balle dans le trou en un seul coup. Voilà, c'est du travail, ça. Il faut s'entraîner, là. Ça fait travailler la tête un peu. On est fasciné par cette petite balle-là. Elle vous esquinte les neurones, là, cette petite balle-là. Alors j'essaye de jouer là deux fois par semaine. Je suis au golf de Bordeaux-Pessac. mais ça ne m'empêche pas de venir jouer de temps en temps ici aussi. J'ai des amis qui jouent ici et qui m'invitent.
Ah voilà. Oui, parce qu'il faut être invité par un membre.
Ah oui, il faut être invité, oui, oui. On ne rentre pas comme ça ici. C'est le plus ancien golf bordelais. Bon, il est très bordelais comme ambiance. Voilà.
C'est-à-dire ?
En bas Bordeaux, vous savez, il y a une comment dirais-je, une histoire Bordeaux. Alors les Bordelais aiment bien se retrouver entre eux. Alors, je ne suis pas un étranger à Bordeaux, mais j'ai trouvé que le golf de Pessac était pas mal aussi. Bon, je vais aller au bar pour demander un renseignement là pour dimanche soir. Est-ce que M. Fournier est venu me porter le vin pour dimanche soir ?
Oui, parfait. C'est offert déjà.
Ah voilà, que la babousse. Voilà, on vient prendre un pot au bar. C'est un peu select ici, là. C'est le côté sympa aussi. Il faut payer une cotisation, tout ça, donc c'est plus cher qu'à Pessac, par exemple. Voilà.
Ça tourne autour de combien, vous avez une idée ?
Alors, ici, j'en sais rien. À Pessac, avec ma femme, ça me coûte environ 2000 euros par an.
Le Rotary aussi, il y a une cotisation à payer.
Alors, ça dépend des clubs aussi. Nous, alors pour vous dire, à Bordeaux-Ouest, nous payons 320 euros par trimestre. Ouais, c'est une question de presque 1500 euros par an, quoi.
Le blanc de Biro
Et le rosé.
Et le rosé. Et le rosé, mais je n'ai pas vu le nom.
24 et 24, c'est Biro, c'est ça.
Il y a 48 bouteilles.
C'est fait.
C'est ça, parfait. C'est offert déjà.
Soyez donc généreux pour les malheureux. Donnez un petit billet pour les hommes. Offrez donc un cadeau à un vieux clodo. Invitez un troufion pour le réveillon. Donnez vos vieux vêtements à une grand-maman et vos jouets cassés aux petits délaissés. Pensez donc pour les fêtes à faire un petit geste. La concierge, les boueurs et puis les bonnes sœurs. Le gala de bienfaisance sur le bateau de plaisance. Le bal des années folles pour les boat people. Ma chère, je vous invite, samedi en 8, on bridgera un peu pour les malheureux. La fin, vous le savez, est une fatalité. Sans fâcher le destin, donnez droit. Nous enverrons grâce à vous du riz au Pérou. Un bateau de bananes ira au Vietnam. Nous remplirons un avion de bœuf mironton. On lâchera la cargaison au-dessus du Gabon. Et tous les traînes misères des deux hémisphères nous diront grand merci, messieurs les nantis. L'essentiel dans la vie, vous l'avez compris, c'est d'être du bon côté de la chair.
Christian Doss. Alors, Christian Doss, c'est un. Christian Doss que vous voyez là avec le président Fayad, un ancien président du Rotary, chirurgien et golfeur émérite, membre du club ici. Donc, c'est lui un peu qui est le responsable de la commission golf. Voilà. Christian, bonjour d'abord.
Bonjour monsieur.
Madame. Christian Doss, moi je suis chirurgien à Bordeaux. Chirurgie viscérale, toute la chirurgie abdominale.
D'accord.
Je suis dans une grosse clinique de la région bordelaise. J'ai lancé cette opération golf il y a maintenant en 2000, donc il y a 14 ans, à l'occasion de ma prise de présidence du club Rotary. Alors, on a fait ça à partir d'un slogan qui fera sourire tous les golfeurs, c'est « Votre swing pour leur handicap ». Donc, c'est amusant puisqu'on parle du handicap au golf. Donc voilà. Bon, cette année, c'est une association qui s'est peut-être un tout petit peu éloignée du handicap, mais qui touche au cancer chez les enfants. Donc j'espère que demain soir, on pourra remettre un chèque atteignant presque les 5 000 euros. Le droit d'inscription est de 12 euros. par golfeur. Comme c'est une compétition qui est ouverte aux non-membres du club, puisque normalement ici ne jouent que les membres du golf bordelais, donc eux paieront en plus le droit de jouer sur ce parcours, ce qu'on appelle le green fee, plus les 12 euros qui nous sont totalement redonnés par le club, par le golf bordelais. Le green fee est 35 euros.
Et vous, Christian, vous êtes membre du club ici de golf bordelais depuis combien de temps ?
Je suis membre depuis longtemps, oui. Depuis 85 à peu près. C'est difficile de rentrer parce qu'il y a un nombre de membres qui est limité et il y a donc une liste d'attente. Et en principe, maintenant, on ne rentre dans le club qu'en fonction des départs et des places qui se libèrent. Donc on peut quelquefois patienter plusieurs années avant d'avoir la possibilité de rentrer au club. C'est un golf privé avec une société immobilière. Donc le terrain appartient aux golfeurs, tout au moins à la société dont les golfeurs sont tous actionnaires.
Donc vous-même, en fait, vous êtes propriétaire d'une petite partie du golf.
Voilà, il doit y avoir quelques mètres carrés dont je suis théoriquement propriétaire.
Mais ça revient à combien à peu près pour pouvoir jouer ici ?
Oh, la cotisation est celle des clubs habituellement. Elle tourne autour de 2000 euros pour un couple. Et après, quand on rentre, il y a donc les actions de la société immobilière à acheter. Qui doit y en avoir pour 8 à 10 000 euros peut-être. Par contre, on a le loisir de pouvoir venir jouer à tout moment. Il est certain que c'est un privilège qui explique la longue liste d'attente pour être membre de ce club.
On va aller rejoindre les autres.
Mais voilà, ils sont partis faire le tour de tout le parcours pour mettre en place les différents fanions, le logo des sponsors sur chaque drapeau au milieu des greens.
Donc là, on longe le clubhouse. C'est une belle maison en pierre.
C'est le golf bordelais fait partie des premiers golfs créés en France. Le premier étant le golf de Pau, où se trouvait une colonie anglaise, et le golf bordelais qui a été créé en 1900 serait, me semble-t-il, le deuxième ou le troisième golf créé en France.
Alors c'est vraiment très très beau. C'est une maison en pierre. Je ne sais pas si c'est des vignes ou du chèvrefeuille qui grimpe sur la façade de la maison. Puis c'est calme.
C'est le golf. C'est le golf. L'avantage de ce golf, c'est qu'on est presque en centre-ville, on pourrait dire. Et malgré ça, effectivement, quand on a franchi les limites de ce golf, on a l'impression de se retrouver à la campagne. Et le golf, il n'y a pas de cris, il n'y a pas de bruit important. Le golf demande de la concentration, du calme. Et on est très heureux de pouvoir retrouver ça à deux pas de chez nous. C'est quand même alors du sport, puisque un parcours de golf fait 4 à 5 000 mètres. Ça permet de marcher. Et puis, le grand coup de golf, le drive, comme on dit, est un geste physique. Et il alterne avec des coups qui demandent énormément de précision et de calme. C'est tous les coups qui se passent sur le green.
On gêne là un peu, non ? C'est ça, au milieu du terrain ? Alors, il vaut mieux marcher où, entre les pins ?
C'est une heure où il n'y a pas grand monde, des joueurs qui viennent s'entraîner pour passer un bon moment.
Un écureuil ! J'ai vu un écureuil passer, là, entre les pins.
Oui, il y a des écureuils, il y a des petits, de temps en temps, des petits lapins, beaucoup de très jolis arbres. On est vraiment à la campagne.
Golf et culture, c'est le sponsor.
Ah ben golf et culture, là je peux en parler parce que c'est un petit groupe d'amis dont je fais partie. On est 8 au total. On est tous passionnés de golf, mais on essaie régulièrement, 2 ou 3 week-ends par an, de faire un petit déplacement en alliant le golf et la culture. Bon, on a décidé de soutenir un petit peu cette compétition et on a donc notre logo sur le trou numéro 1. On est très fiers d'être au trou numéro 1.
Et ce qui serait bien maintenant, c'est qu'avec deux potes, ils mettent la balle dans le trou. Il est ce qu'on appelle, dans notre jargon, il n'est pas donné. Et voilà. Il a 11 ans, ce garçon. Oui, il joue comme un dieu, ça serait un futur champion. Voilà.
Il l'a mis.
Voilà, bravo.
Là, on a longé toute l'extrémité du... Oui. Du golf sur le côté, il y a des maisons aussi voilà. Qui sont installées avec des piscines.
C'est un quartier un peu, c'est le quartier un peu chicose de Bordeaux ici.
C'est le quartier
le
de.
Le quartier de Codéran.
C'est l'ouest de Bordeaux.
Ben, on va le dire. Là, c'est le Fagnon OGV, c'est ça?
Oui.
Logement pour la vie.
Logement social.
C'est du logement social?
Oui. On a dans notre club un de nos membres qui est le patron de toute l'organisation sociale des logements sur la Gironde. Et donc, il nous favorise un petit peu pour avoir des trous comme ça. Voilà.
Alors Yves, si j'ai bien compris, en fait, chaque fagnon, quelqu'un du club fait partie
oui,
de l'entreprise.
D'abord, quoi. Il a fallu aller les chercher.
Quand on est au sein de l'entreprise, c'est plus facile, quoi.
Voilà, ou on a un copain, un truc comme ça, voilà, on le sollicite. Dans la commission, chacun a son rôle, et les sponsors, c'était le travail de Marie Farbos, une rotarienne, puisqu'il y a des femmes au Rotary maintenant.
Ça, c'est récent,
hein. Oui, c'est récent, ça. J'ai été président du Rotary Club d'Albi en l'an 2000. Et à l'époque, j'avais un peu susurré l'idée de faire rentrer des femmes. J'étais tombé sur un Rotary qui a dit « Non, mais laisse tomber ». Et ils n'en ont toujours pas.
C'est vrai.
Et ici, à Bordeaux-Ouest, on a 9 femmes.
Donc, sur combien de membres?
72. La première est rentrée il y a peut-être 5 ans, à peu près, je crois. Et puis, on va essayer d'en recruter d'autres, quoi.
Et après, il nous reste 7 qui sont là, les dernières.
Alors, comment on y rentre au Rotary?
On y rentre parce qu'on est invité par quelqu'un. On ne fait jamais acte de candidature. Il faut être invité par un Rotarien.
C'est comme la Légion d'honneur, quoi.
C'est comme la Légion d'honneur, voilà. On l'invite un jour à déjeuner, et puis on le réinvite. Et s'il veut vraiment rentrer, sa première action, c'est de faire une conférence. Après ça, eh bien, il est soumis à un comité des sages, quand même, pour savoir si ça sera un bon Rotarien.
Alors c'est quoi les qualités pour être un bon Rotarien?
Faut avoir de l'humour, faut être sérieux, il faut aimer l'esprit de camaraderie, et puis il faut être un bon bénévole aussi.
Les idées du Rotary, nous sommes pour servir et aider. Notre devise est servir d'abord les autres. Et c'est ça ce qui nous réunit tous, on a un seul objectif, c'est d'aider les autres.
Et vous, ouais. Qu'est-ce qui vous a donné envie de rentrer au Rotary?
C'est sympa de côtoyer Christian, Henri. Vous savez, quand on arrive dans une ville, comme j'ai fait 12 fois, il faut se trouver un peu un point de chute. Avec le métier que je faisais, je ne peux pas aller partout. Vous savez, les gens, ils peuvent profiter un peu de... Ah ben, le directeur de la banque, oui, il faut en profiter un peu, il faut faire attention, ça.
Ah, ouais.
Même au Rotary, du reste. Au Rotary, j'ai fait très attention à ne pas faire n'importe quoi, parce que c'est un copain qui me demande un prêt. Donc, faut être prudent aussi, là.
Parce que comme ça, au Rotary, il y a des gens, des fois, qui disent « Ah, je fais partie du Rotary, je vais en profiter pour... »
Oui, non, ou des gens qui disent « Ah,
ben passe droit,
tiens,
quoi.
Donc, tu pourrais pas regarder mon dossier, tout ça, il est pas mal. Bon, il laisse le dossier, je vais le regarder. »
Et c'est bon, le Rotary, on se donne des coups de main, mais il y a quand même des limites, quoi.
Il y a quand même des limites, faut pas, c'est sûr.
Aujourd'hui, moi, j'ai fait le rêve d'une humanité. Plus humaine, sans haine et sans méchanceté. Solo. Une humanité moins pourrie, où seulement les gens gentils seraient accueillis. Une humanité plus pure, où les gens méchants auraient la vie dure. Parce que je sais pas vous, mais moi les gens qui sont méchants, ils me foutent les boules. D'ailleurs, rien qu'à leur sale tronche, ça se voit, ils sont pas cool. Et un jour, je vais plus tolérer de les voir passer devant ma maison. Et s'ils veulent pas comprendre, j'ai des solutions. La déportation pour tous les intolérants. Et puis
sont pas cons dans leur tête. Et tous ceux qui pensent pas que j'ai raison, je les bute.
Alors là, on est devant l'accueil. Ah bah, il est fermé,
oui,
l'accueil.
Oui, il est quand même 19h. On le met où, le deuxième beach player?
Alors là, vous voyez, on a fait ce drapeau, là.
C'est un drapeau rectangulaire, oui, de à peu près 3 mètres sur 3, on va dire.
Tous les sponsors sont mis dessus. Tous les drapeaux qu'on a mis sur le terrain, ils sont doublés par ce grand drap, ainsi que par l'oriflamme qu'on a vu tout à l'heure et qu'on va installer le deuxième, là.
Rotary Golf Cup avec le symbole de Bordeaux Ouest, qui est le tonneau de vin.
Les logos de nos partenaires, de nos sponsors.
Ça fait un peu de pub, quoi.
Ben, il faut remercier nos sponsors. Et puis l'année prochaine, ils vont peut-être commencer.
Les gens qui vont arriver, la table de réception sera là. Il y a le parcours derrière. Et les gens, ils prendront leurs cadeaux. Et ils vont comme ça passer devant.
Et on prendra la photo là-bas.
Ça, c'est pour la remise de prix.
La table pour tous les lots, on va la mettre de ce côté-là.
Donc face au clubhouse, face à la terrasse du clubhouse.
Il y a derrière la vision de là-dessus,
du golf.
Et les gens, ils vont être appelés, ils prendront leurs cadeaux et ils partiront de ce côté-là et ils se mettront devant le panneau des sponsors avec bien sûr la Rotary Golf Cup et la photo là devant.
Comme ça, on verra bien tous les sponsors.
Tous les joueurs. Et c'est Jean-Philippe, c'est le photographe officiel du club. Et il va prendre les photos de tous les participants au départ. Et tout le monde partira avec quelque chose. Tout le monde sera heureux de partir.
Les 150 personnes qui sont inscrites partiront avec quelque
plus
chose.
Plus ou moins, oui. Parce qu'après, il y a le tirage au sort. On peut dire la moitié des gens, ils partiront avec quelque chose à la main.
Ça incite quand même aussi à venir au-delà de la générosité.
Ça fait 14 ans que ça dure et les gens, ils sont habitués maintenant à revenir aussi.
Ils savent que c'est une compétition bien dotée.
Voilà.
Ils savent que
c'est une compétition qui est bien dotée. Donc c'est un petit côté marketing. Ça attire.
Mais on peut repartir avec un cheval blanc ou non, quand même pas.
Il y a de très belles bouteilles.
Il y a quelqu'un qui a fait un don d'un château d'Ikem. Vous allez voir, il y a des belles bouteilles. Sachez-le que toutes ces bouteilles-là, ça a été offert par des Rotariens. Sur le nom 72, chacun est descendu à sa cave chercher du vin. Il y a des belles bouteilles. Vous allez voir.
On compte sur vous dimanche.
Bien sûr.
Ah oui.
Vous jouez quand, Christian?
Je joue dimanche matin vers 8h30.
Bah dimanche. Oui, oui.
Alors vous avez compris, l'important c'est d'être du bon côté de la charité. Si vous êtes du côté qui n'a pas besoin de la charité, arrangez-vous pour lâcher quelques miettes surtout, pour que rien ne change. C'était Rotary qui sert le mieux, profite le plus. Le deuxième volet du reportage de Charlotte Perry. Vous avez vu que c'est les chics, notre Charlotte Perry. Hein, on est très fiers. Merci aussi à Anaël Verzo pour son reportage à la manif des retraités contre l'austérité. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission. Et puis aller faire un tour sur la page Facebook de Là-bas si j'y suis, ainsi d'ailleurs que sur là-bas.org, on a fait un petit film rigolo sur notre déménagement et sur notre porte. On a déménagé, mais on n'a pas pris la porte. Jetez un œil, ça va vous amuser. À la technique aujourd'hui, Gaël Braouzek, Alexandra Bergel. L'émission a été réalisée par Jérôme Chélius et Franck Adhérer, préparée avec Jonathan Duong et Stéphanie Fromentin. Attends vos messages sur le répondeur de Là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. On se retrouve demain à 15h pour Là-bas si j'y suis. Tout de suite, je vous laisse avec Hervé Pochon et son temps de pochon.
Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Et maintenant, sur France Inter, il va y avoir un temps de pochon, mais ça ne va pas durer.
Bonjour à tous et bienvenue au musée du Quai Branly, où Tatoueur Tatoué, une exposition qui se déroule jusqu'au 18 octobre 2015, donc on a du temps, mais voilà. Qu'est-ce que vous avez ressenti, Anne, quand on vous a dit, tiens, est-ce que vous voulez bien être commissaire d'une exposition sur le tatouage au musée du Quai Branly? Vous êtes dit, mais ils sont tombés sur la tête?
Non, c'était une idée qui germait déjà depuis longtemps, une espèce de chose un peu naturelle auquel on tenait. Et puis le musée du Quai Branly, on avait très envie. Donc dans la vie, il y a des choses qui se présentent et c'est un peu compliqué de les refuser, même quand ce sont des très très grands défis. Donc ça pose des questions très sérieuses.
Qu'est-ce que ça pose comme question sérieuse de faire une exposition au Quai Branly ? Vous dites, est-ce qu'on va être à la hauteur du musée ou est-ce que le sujet en vaut la peine ?
Non, est-ce que nous, on va être à la hauteur du sujet ? C'est juste très différent. Et c'est une grande question, en fait, quand vous défendez les arts que vous aimez, en fait, en général. Ce sont des choses qui sont plus puissantes que vous. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous les adorez et que c'est un gros moteur. Donc ça apprend beaucoup la lucidité et l'honnêteté, en fait, de travailler sur ce type de sujet. Ah, alors je te présente. C'est l'équipe de production, en fait, du musée, avec laquelle on a travaillé vraiment d'arrache-pied pendant un an et demi. Et c'est juste des flèches, quoi. On les voit jamais, on les entend jamais, et c'est une super équipe. Donc je vous présente Camille.
Je vous remercie, Anne, mais juste dites-moi, qu'est-ce qui était le plus difficile pour
faire cette exposition ?
Qu'est-ce qui était le plus difficile pour réaliser une exposition comme ça sur le tatouage ?
Travailler tous ensemble, réussir à trouver les pièces, réussir à trouver la place, réussir à se mettre d'accord, réussir à trouver une harmonie sans perdre le fond du propos.
Et là, justement, Camille, vous êtes tatouée ?
Non, pas du tout. Ah.
Qu'est-ce que ça vous inspire, le tatouage ?
Je pense que en travaillant sur cette exposition, ce que j'ai principalement appris sur le tatouage, moi qui connaissais pas du tout cet univers, c'est que le tatouage en fait est un art subtil, délicat, et qui en fonction des zones géographiques varie énormément et a des sens complètement différents.
Est-ce que après avoir préparé une telle exposition, vous avez envie d'être tenté par le tatouage ?
Non. Alors, je trouve que c'est très beau, je trouve ça très esthétique sur les autres, mais je veux dire que je suis trop sensible à la douleur pour être tentée par le tatouage. En revanche, les photographies de personnes tatouées, je trouve ça très esthétique.
Parmi tous les pays où il y a des tatouages, quel est le pays ou la zone géographique qui vous plaît le plus dans les tatouages ?
Je pense qu'on ne peut pas juste dire ça me plaît parce que c'est esthétique. Esthétiquement, je dirais que le tatouage chinois et le tatouage japonais me plaisent le plus parce que c'est eux qui s'approchent le plus du dessin, de l'art de l'estampe. Après, j'ai énormément apprécié de travailler sur toute la section la rue, l'armée, la prison, parce que ce sont des tatouages qui sont excessivement significatifs et qui représentent aussi l'histoire d'un homme. C'est-à-dire que l'homme porte son histoire à même le corps, et je pense que ça, c'est ce qui m'a le plus touchée.
C'est pour ça que l'exposition s'appelle Tatoueurs tatoués, parce qu'elle ne parle que de ça, des tatoueurs et des tatoués. Et il était impossible de faire une exposition comme ça sans que l'international du tatouage, les gens vraiment importants, les grands artistes d'aujourd'hui, puissent vraiment être heureux, en fait, voilà, de voir cette chose-là.
Je trouve que la sélection que vous avez faite, eh bien, c'est un énorme sujet que tu dois mettre dans cet espace. C'est restreint.
Ouais.
C'est très difficile, je suis sûr. No, I think you made a very nice collection.
Quelle est la pièce qui vous touche le plus dans ce musée, dans cette exposition ?
Moi, c'était un morceau de peau dans le bocal. J'étais en train de le regarder, je me disais, ça pourrait être moi.
Un morceau de peau qui est tatoué
Il y en a plusieurs ici, et c'était des êtres vivants avant, comme moi, tatoués. Et maintenant, ils sont là, à tout jamais, ils vont exister comme ça. Ça m'a touché, ça, un peu. Ça m'a fait penser à ma mortalité, à tout, you know, l'impermanence de ce qu'on fait. Je mets mon cœur dans mon travail, mais il va uniquement vivre aussi longtemps que... Bon, elle survit dans les photos, mais elle va mourir.
Mais alors, vous imaginez donner votre peau à vos enfants en disant, ben voilà, vous pouvez garder...
Je crois que mon fils serait terrorisé à cette idée.
J'imagine.
Je pense qu'il n'est pas du tout comme moi. Mais non, mais c'est des questions bizarres, pochon.
Et en plus c'est légalement assez difficile. Ouais. On s'est renseigné une fois, mon père et moi, pour nous amuser. Il faut trouver un avocat, il faut trouver un médecin, il faut trouver un morgue qui vous laisse utiliser leur lieu. Tu as 36 heures après la mort pour enlever la peau, après ça, ça devient difficile. C'est pas si facile que ça.
Mais la question n'est même pas venue toute seule, hein. C'est Philippe qui m'a donné l'idée, parce qu'il disait qu'il avait vu un morceau de peau dans
un
bocal.
Ça m'a touché, ça. You know,
Bon ben, je vous remercie en tout cas pour votre patience. Et si on veut voir votre travail, c'est pas compliqué. Vous avez un site, lefamilyironiron.com. C'est plus facile.
En temps de pochon, c'est terminé pour aujourd'hui, mais revenez demain.
Bonjour.
Bonjour.
C'est Rémi de Tabac Info Service. Je vous appelle pour faire le bilan de cette nouvelle semaine sans cigarette.
Eh ben, la semaine a été dure. Vous savez, je cherche un emploi et j'ai eu quelques entretiens. Ouais. J'étais stressé et j'ai eu du mal à résister.
Oui, je comprends. Quand on est fumeur, on a souvent l'impression qu'une cigarette soulage. Alors qu'en réalité, la nicotine entretient le stress.
Vraiment ?
Mais oui. Et d'ailleurs, il y a des moyens plus efficaces pour se détendre. On peut en parler aujourd'hui ?
Pour arrêter de fumer, appelez Tabac Info Service au 39 89 15 centimes la minute et bénéficiez ensuite d'un suivi personnalisé gratuit par un tabacologue. 39 89, un service de l'INBES et du ministère de la Santé.
Enregistrement des rêves. En raison de la fête des millions, je ne peux pas vous répondre. Je dois décorer, gonfler des... Oh Brigitte, passe-moi un ballon, j'ai une idée pour le répondeur.
Bureau d'enregistrement des rêves, bonjour.
Euromillion My Million. Ce vendredi, la fête des millions continue avec 10 millionnaires My Million garantis en France et un super jackpot Euromillion de 100 millions d'euros minimum. À partager au rang 1, voire règlement.
FDJ.
10 gagnants My Million à 1 million d'euros en République française ou Monaco.
Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Retrouvez les rencontres musicales d'Evian du 8 au 14 juillet. Le célèbre festival renaît en juillet 2014 sous la direction artistique du quatuor Modigliani. Du 8 au 14 juillet, la légendaire Grand Jaulac et le Théâtre du Casino accueillent une Schubertiade de 15 concerts d'exception. Renseignements et réservations sur le site rencontre-musicale-evian.fr.
France Inter présente Bird People, le nouveau film de Pascal Ferrand, sélection officielle au Festival de Cannes, actuellement au cinéma. Avec Anaïs de Moustier et Josh Charles.
Tell them I got in an accident on my way back from the Paris meeting. I've had enough, I think.
En transit dans un hôtel près de Roissy, un ingénieur américain décide de changer radicalement le cours de sa vie.
Petit boulot à l'hôtel, ça va ?
Ça va, ça va.
Dans le même hôtel, une jeune femme de chambre voit son existence basculer à la suite d'un événement surnaturel.
Allez.
Retrouvez Pascal Ferrand le 5 juin à 20h dans L'Humeur Vagabonde.
Vous écoutez France Inter, il est 16h. Les informations Rémi Inc.
Bonjour à tous. Mehdi Nemmouche, le tueur présumé du musée juif de Bruxelles, refuse d'être remis à la Belgique, qui a délivré un mandat d'arrêt européen contre lui. Mehdi Nemmouche souhaite être jugé en France, indique aujourd'hui son avocat, qui explique que certains des faits reprochés à son client, notamment le port et le transport illégal d'armes, ont été commis en France. Mehdi Nemmouche est resté muet tout au long de sa garde à vue, se trouve désormais à la prison de Bois-d'Arcy, dans les Yvelines. Son refus de se rendre en Belgique devrait retarder de quelques semaines sa remise aux autorités belges. Le président américain Barack Obama est arrivé à Bruxelles. Il doit participer à un sommet du G7, sommet dominé évidemment par la crise en Ukraine et les relations avec la Russie. Barack Obama arrivé de Varsovie, en Pologne, où il a affiché dans la matinée son soutien au président élu ukrainien pro-occidental Petro Poroshenko. La chancelière allemande Angela Merkel a, elle, réitéré la menace de sanctions économiques contre la Russie si Moscou ne contribue pas à une stabilisation de l'Ukraine. L'Union européenne est prête à organiser une réunion de donateurs pour l'Ukraine début juillet, a déclaré aujourd'hui José Manuel Barroso, le président de la Commission européenne. Barack Obama qui doit rencontrer le président français François Hollande demain soir lors du dîner organisé pour les commémorations du 70e anniversaire du débarquement en Normandie. La situation en Ukraine sera au menu des discussions, mais également la situation de BNP Paribas, la banque française menacée par la justice américaine d'une amende pouvant aller jusqu'à 7 milliards 300 millions d'euros, accusé d'avoir violé l'embargo américain contre des pays comme l'Iran, le Soudan ou Cuba. François Hollande a écrit à Barack Obama pour lui dire son inquiétude, et une inquiétude peut être renforcée par cette annonce de Standard & Poor's. Aujourd'hui, l'agence de notation américaine a décidé de placer BNP Paribas sous surveillance négative et menace d'abaisser sa note à long terme, actuellement fixée à A+. La Commission européenne en discussion avec Paris sur les aides agricoles versées à tort. tort aux agriculteurs français, la France pourrait être amenée à rembourser la somme de 1,8 milliard d'euros. Cette somme comprend 406 millions d'euros déjà réclamés depuis mars pour des aides versées entre 2008 et 2012. Le ministre français de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, a contesté ce matin le montant de l'amende. On cherche à trouver une solution, a-t-il expliqué. Et puis la pluie, il pleut très fort sur la capitale. Conséquence, à Roland-Garros, on ne s'échange pas les balles, mais les parapluies et les regards inquiets. Les débuts des matchs ont été repoussés une troisième fois. Ils ne commenceront pas avant 16h30. Quatre quarts de finale sont programmés aujourd'hui. Chez les femmes, Svetlana Kuznetsova contre Simona Halep et Sarah Errani contre Andrea Petkovic. Et puis ensuite, si le temps le permet, place aux hommes. Le français Gaël Monfils contre l'écossais Andy Murray. Puis dernier quart de finale entre deux espagnols, Rafael Nadal contre David Ferrer.
Vendredi matin sur France Inter.
Le 7-9 débarque en Normandie.
La bataille suprême est engagée.
Patrick Cohen.
Nous serons en direct et en public de la mairie de Caen avec parmi nos invités le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian.
Voici venu le choc décisif.
Matinale spéciale en direct de Caen, à suivre sur France Inter vendredi à partir de 7h.
France Inter.
Merci d'écouter France Inter, il est 16h04. Et bonjour Frédéric Lodéon.
Bonjour Rémi Inc, on vous retrouve à 17h pour d'autres informations.
À tout à l'heure.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Aujourd'hui, très beau plateau, comme on dit, deux artistes, un artiste directeur en plus, Pascal Escande. On va parler donc du Festival d'Auvers-sur-Oise. D'abord, Anne Kefelec, bonjour.
Bonjour.
Merci, magnifique pianiste d'être avec nous. Laurent Corsia, magnifique violoniste, bonjour, bonjour. Et puis donc Pascal Escande, qui est lui-même pianiste formidable et qui est directeur du Festival d'Auvers-sur-Oise. Bonjour. Alors pourquoi faut-il aller à Auvers-sur-Oise, Pascal ?
Eh bien, il faut y aller parce que c'est le 34e festival d'Auvers-sur-Oise.
Ça suffit pas.
C'est non, vieux, non. Parce que c'est bucolique. C'est l'église qui a été peinte par Van Gogh. Et puis c'est une acoustique fabuleuse. D'ailleurs, Anne y a joué. Laurent aussi, ils vont en parler. Et puis vous aussi, Frédéric.
Un très beau trio
de Brahms.
Oui, absolument. Et puis il y a cette âme de Van Gogh qui est qui a vécu dans ce village. Et puis qui est venue mourir là-bas.
Oui, 70 jours. Près de 80 toiles. Et d'ailleurs, la ville d'Auvers-sur-Oise, là, fête pendant 3 années Van Gogh. Ça s'appelle, la thématique, c'est Sur les pas de Van Gogh. Et ça rassemblera le 12 juin deux récitants autour des lettres de Théo à Vincent.
Ce sont les frères d'Arvor. Voilà, c'est ça. On connaît évidemment.
Et l'année prochaine, ça sera Mons, qui est la capitale culturelle. Et puis on reviendra sur Arles et Saint-Rémy-de-Provence, c'est-à-dire la trajectoire de Vincent Van Gogh jusqu'à Auvers où il est mort.
Très bien. Anne Kefelec, pour commencer, on va entendre un de vos disques, donc la Passacaille fameuse, qui est tellement fameuse qu'elle a été reprise d'ailleurs pour violon et alto, violon et violoncelle, par un certain Halvorsen, un Scandinave. Alors Anne, vous avez des souvenirs, vous, de ce magnifique village? Moi, je m'en souviens, je suis allé aussi simplement comme touriste à Auvers-sur-Oise, tout près de Paris, non loin de Pontoise, on va dire, de Cergy, etc. Vous avez des souvenirs personnels?
J'ai des souvenirs du fait qu'en effet, j'avais été invité par le festival déjà, et j'ai des souvenirs de l'atmosphère dans l'église, une atmosphère très, très recueillie, très fervente, et c'est vrai que la pensée en filigrane de Van Gogh, on ne peut pas y échapper, c'est très étonnant, cette espèce de présence du génie qui en plus s'est vraiment brûlé, puisqu'en plus on sait comment il est mort.
Il s'est suicidé.
Et il a vraiment été dévoré par son art, et j'aime infiniment sa peinture. Encore récemment, je suis allée à Amsterdam, j'ai évidemment passé une bonne après-midi au musée Van Gogh, et je n'aime pas trop faire des parallèles entre la peinture et la musique, mais néanmoins, on sait bien que dans cette aspiration à plus de vie finalement et à peut-être aller vers le mystère profond de l'existence. L'art est absolument incomparable et j'aimerais savoir, lui, ce qu'il aurait pensé de... Comment il vivait la musique ? Ça, on reste avec cette interrogation.
Il a dit une belle chose, en tout cas. Il a dit, j'espère que la peinture deviendra plus musique. Voilà, c'était dans une de ses lettres. Le festival est né donc, il y a 34 ans, mais c'est vrai qu'à cette époque-là, on ne parlait pas beaucoup de Vincent Van Gogh. C'est venu véritablement dans les années 90, où la ville d'Auvers a fêté le centenaire de 1890-1990. Nous, on en était au 10e festival. Et après, c'était un déferlement. Il y a eu des mises en vente de tableaux. Et Van Gogh
beaucoup
est devenu voilà,
japonais,
énormément sur la une, je dirais, de l'art, hein, du marché de l'art. Mais avant tout, c'est ce que vous dites, c'est un expressionniste fabuleux. Et ce déferlement de couleurs, on voit bien ces traits au couteau sur les tableaux. C'est, je dirais, les musiciens lui rendent maintenant hommage depuis 34 ans. Et ce festival a ce côté bucolique, en réalité.
Et je pense que dans sa peinture, il y a une dimension de vibration.
Oui,
c'est une peinture vibrante.
Absolument.
Alors à ce moment-là, elle rejoint vraiment la musique d'une certaine façon.
Ah ben, la Passacaille de Händel, qui a lui aussi une belle patte, elle vibre notamment sous les doigts d'Anne Kefelek.